Française ! Française !
Ladies and gentlemen,
c'est Jacques Chirac qui vous parle.
Je dis quand même, qu'est-ce qui vous tend la main là ? Qu'est-ce qui vient là ?
C'est Monsieur Sarkozy.
Bah Manu, tu descends ?
La France n'est pas un pays réformable, c'est un peuple qui déteste cela.
Moi, président de la République,
voilà donc, encore une fois, ensemble.
Bonjour à tous, nous voilà une nouvelle fois ensemble. Quentin Warlop, je suis journaliste reporter pour le service international de la RTBF et je vous accompagne sur la route de l'élection présidentielle française, quatrième numéro de votre podcast Voix de France. On est à Paris avec deux invités. Ariane Chemin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter pour le journal Le Monde et Marc Cirlerot, journaliste politique pour la RTBF. Salut Marc.
Salut.
On est à moins d'un mois et demi du premier tour de l'élection française maintenant et on ne parle pratiquement plus que de la politique internationale ou presque invasion russe oblige. Ariane Chemin, on a un peu l'impression que cette campagne présidentielle ces derniers jours, elle est comme anesthésiée.
Oui, parce que l'événement est immense, c'est une guerre qui se passe aux portes de l'Europe. On ne cesse de nous dire que voilà, il y a des bombes qui tombent à 100 km de Varsovie. Et puis aussi parce que on a un paysage politique français qui est très divisé depuis toujours sur la question russe. Et là, on a une somme de candidats qui ne sont pas d'accord. D'ailleurs, beaucoup nous ont dit qu'il n'y aurait jamais d'invasion de l'Ukraine il y a quelques jours. Je pense par exemple à Éric Zemmour sur les plateaux de télévision. Donc en plus, ça clive le passé et les déclarations de ces candidats les rattrapent aujourd'hui et sont diffusés à la radio, à la télévision, et les mettent parfois en difficulté.
Marc, cette campagne, on en a déjà parlé hein, lors du premier et du deuxième podcast, on a l'impression qu'elle n'a jamais vraiment démarré. Il y a eu le coronavirus aussi qui est passé par là.
Oui, mais ce n'est pas la raison, je dirais, principale. Une partie du problème vient sans doute d'Emmanuel Macron. On sait que depuis des mois et des mois qu'il sera candidat, dans tous les sondages, depuis des mois et des mois, il est donné vainqueur, et largement, dans tous les cas de figure. Et il va seulement lancer sa campagne. Ce qui veut dire que tous ses adversaires tapent un peu dans le vide. Ils boxent, mais ils n'ont pas le principal adversaire en face d'eux. Donc c'est difficile pour eux. Ils l'attaquent sur son bilan. Oui, mais sur le plan socio-économique, Emmanuel Macron s'en sort plutôt bien. La croissance est là. Le taux de chômage est en baisse. Donc il s'en sort plutôt bien. Donc ils ne savent pas comment l'attaquer. Donc pour lui, c'est un peu facile. Et puis maintenant, il va se lancer dans la campagne. Emmanuel Macron. Et il y en a déjà des candidats qui sont, entre guillemets, en mort cérébrale. Ils espéraient le battre, ou en tout cas le malmener un peu, mais vous voyez où on est, Christiane Taubira, on ne sait toujours pas si elle sera candidate ou pas, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, ils font entre 2,5, 5, 6 dans les sondages. Et il y a même Valérie Pécresse qui maintenant ne sait plus très bien où elle en est par rapport au sondage. Elle est à 11, 12%, elle serait peut-être même plus qualifiée pour le second tour, elle serait lâchée par Le Pen et Zemmour. Et Emmanuel Macron arrive seulement, lui, dans la campagne. Donc vous voyez, c'est une campagne très particulière. Alors vous rajoutez le contexte russe, c'est un peu difficile parce que pour ses adversaires, c'était le bon moment de l'attaquer. Il entrait en campagne Emmanuel Macron. Et voilà maintenant que c'est l'actualité internationale qui va vraiment dicter le ton pendant au moins un certain temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer, notamment cette guerre. Eh bien là, c'est encore difficile pour les candidats, les autres deux candidats, de pouvoir vraiment s'attaquer à Emmanuel Macron.
Il y a deux expressions que j'ai entendues durant cette campagne qui m'ont semblé très justes. L'une a été inventée par un chercheur en sciences politiques et commentateur, c'est la campagne Tefal, comme la poêle Tefal. Tout glisse.
Ça glisse.
Ça glisse. On voit par exemple qu'il y a eu quelques révélations sur le passé d'assistants parlementaires, du candidat communiste. Ça glisse. Les paroles glissent, tout se remplace. Et j'ai trouvé que c'était une assez bonne analyse. Et puis j'ai entendu une autre expression qui m'a plu, qui concerne davantage la gauche, je dirais, c'est la campagne Koh-Lanta, du jeu télévisé. Et la campagne Koh-Lanta, ça veut dire qu'il y a beaucoup de candidats qui ne savent pas s'ils vont aller au bout. Est-ce que, pendant des semaines et des semaines, on s'est dit, est-ce que la candidate du PS va aller au bout? Est-ce que Christiane Taubira va aller au bout? Et ça, c'est quand même assez nouveau dans une campagne présidentielle.
Et pourtant, il n'en restera qu'un.
Ils sont 20, à la fin, il n'en restera qu'un.
C'est ça qu'on dit à Koh-Lanta. Ce sera peut-être Emmanuel Macron, le président candidat. En tout cas, il occupe énormément de place au niveau international. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Il s'est adressé à la nation française quelques heures seulement après l'invasion russe. C'était jeudi dernier.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays.
Emmanuel Macron, avec la France qui assure la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, Ariane Chemin, ça lui permet quelque part d'être au-dessus, au-delà de la mêlée, au-dessus des autres candidats ?
Oui, alors c'est évidemment toujours très compliqué de parler de calcul et de cynisme parce que la guerre est là. Hein. Et c'est vrai qu'il avait décidé qu'il se présenterait, en fait son souhait c'était de se présenter quand le Covid aurait vraiment régressé, ce qui est le cas, ça y est, la courbe des contaminations descend. Et puis tout d'un coup il est arrivé cette invasion de l'Ukraine qui n'était pas forcément prévue au programme. Et là, effectivement, il a besoin d'être chef de guerre.
Bonsoir.
How are you?
Do you have a good tip?
Very good.
Je pense qu'il y a une communication un peu hasardeuse sur le fait, sur les heures qu'il a passées à discuter avec Poutine, parce que certains de ses adversaires se sont emparés de cet échec des négociations pour dire, ben voilà, tout ça ne sert à rien. Ça a été, ils ont beaucoup communiqué là-dessus, hein, l'Élysée, et puis surtout son parti, La République en Marche. Et là, aujourd'hui, évidemment, en revanche, il apparaît comme un chef de guerre. Il est l'homme qui maîtrise la situation, qui a ses homologues européens au téléphone, qui discute aussi bien avec Biden qu'avec le chancelier allemand. Et donc, évidemment, ça lui donne une force supplémentaire. Il est l'homme du régalien.
Pourtant, Marc, il avait annoncé une réunion entre Poutine, d'autres chefs d'État, Joe Biden. Ça n'a pas forcément été quelque chose de positif, les négociations du président Macron.
Ben non, la preuve, justement, après ce qui s'est passé jeudi avec l'attaque et la volonté de guerre de Poutine en Ukraine, ça montre bien que ça n'a pas du tout marché. Il a essayé, en tout cas. Il est allé voir Poutine. L'image est quand même là, autour de cette grande table où ils étaient à 4-5 mètres l'un de l'autre. On a vu Macron, c'est lui qui a essayé, en tant que président français, mais aussi en tant que patron pour l'instant de l'Europe. Il a essayé. Bon, le résultat, on l'a vu, il n'y est pas arrivé. On peut dire que Biden avait été plus prudent. Biden a l'impression qu'il n'a jamais cru qu'il pourrait faire changer les choses. Macron a essayé, il a voulu se montrer volontariste. Et puis maintenant, même si, bon, il y a la fonction qui est là parce que la France exerce la présidence tournante de l'Union européenne, il faut quand même bien dire qu'il n'a plus dans les pattes le Royaume-Uni. Donc il n'a pas Boris Johnson qui peut être son concurrent, où il y a quand même là aussi l'arme nucléaire. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. L'Allemagne, là-dessus, elle est un peu plus divisée et partagée parce qu'elle a d'autres rapports avec la Russie. Donc vous voyez, celui qui est en position de force sur le sujet, c'était Emmanuel Macron. Mais il faut bien dire que, visiblement, ça n'a rien donné ce qu'il a tenté de faire avec Vladimir Poutine.
Emmanuel Macron, qui s'est d'ailleurs entretenu plusieurs fois avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, il est proche des Ukrainiens. Pourtant, ce n'est pas le seul. Les autres candidats se disent aussi proches des Ukrainiens. En tout cas, plusieurs candidats sont même allés dans ces manifestations pro-ukrainiennes. On était présents devant l'ambassade russe à Paris. C'était jeudi dernier. Il y avait Yannick Jadot, le candidat des Verts. Je vous propose de l'écouter.
Ce qui se passe, c'est absolument dramatique. Ce qui se passe nécessite l'unité en Europe, l'unité des responsables politiques français. Et certainement beaucoup plus de clarté de certains d'entre eux vis-à-vis de Vladimir Poutine et vis-à-vis de l'invasion militaire qu'il est en train de perpétrer en Ukraine.
On l'entend, Yannick Jadot demande plus de clarté de certains candidats vis-à-vis de la Russie et de Vladimir Poutine. Ariane Chemin, il pense à qui, Yannick Jadot, en demandant plus de clarté vis-à-vis de la Russie ?
Il pense à des candidats venus de l'extrême droite et à des candidats venus de la gauche. C'est intéressant de voir qu'en France, il y a deux candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour à l'extrême droite, qui ont toujours entretenu des liens privilégiés avec Moscou. Marine Le Pen s'est rendue à rencontrer Vladimir Poutine en 2017 et a loué sa vision géopolitique, il faut quand même s'en souvenir. Elle avait contracté un emprunt aussi pour l'aider dans sa campagne en 2014.
10 millions d'euros.
10 millions d'euros, exactement. Quant à Éric Zemmour, il est carrément poutinophile. C'est-à-dire qu'il a eu cette phrase que tout le monde a ressuscité ces derniers jours. « Il nous faut un Poutine français », disait-il. Ensuite, il a toujours défendu, comme il est contre l'OTAN, il a évidemment, c'est toujours alerté qu'on puisse faire entrer autant de républiques proches de Moscou, dans l'OTAN. Et il a toujours défendu, en fait, ce qu'il aime chez Poutine, c'est l'anti-américain, évidemment. Ça, c'est la vieille tradition de l'extrême droite française qu'on retrouve chez ces deux candidats. Et puis, il y a aussi cette vision viriliste et forte qu'il apprécie. Hein. C'est cette vision mâle qu'il apprécie. Il a toujours parlé de Poutine en ces termes.
Il évoque souvent ce qu'on appelle, enfin ce qu'il appelle le patriote russe, c'est quoi ?
C'est son expression, le patriote russe, comme s'il n'avait d'ailleurs pas d'autre patriote qu'en Russie. C'est très étrange, pas de patriote ukrainien. Voilà, quand il dit qu'il faudrait un Poutine français, il pense à ça. Il veut être le patriote, le candidat patriote français. Et il renvoie cette image complètement fausse, hein, évidemment, de Vladimir Poutine. Et c'est vrai que pour lui, c'est compliqué, parce qu'en plus, il avait joué les géopoliticiens, j'allais dire, et quelques jours à la télévision française, il avait quelques jours avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, il avait dit « je ne crois pas du tout à une guerre entre la Russie et l'Ukraine ». Il l'a dit très clairement. Évidemment, ces images repassent en boucle.
Il n'a pas forcément eu Vladimir Poutine au téléphone.
Non.
Marc, Marine Le Pen, Éric Zemmour, proche de la Russie, ça peut être embêtant à l'approche du premier tour ?
C'est sûr que ça ne joue pas pour eux, comme vient de l'expliquer Ariane. Hein. L'image laissée, ça veut dire qu'il y a de ça quelques semaines, ils disaient encore qu'un modèle, c'était Poutine. Et maintenant, on voit Poutine envahir l'Ukraine. L'image est plutôt négative. Et si on parle de Trump, de Zemmour et de Le Pen, vous voyez, je vais arriver à Trump, c'est aussi leur modèle. Souvenez-vous, il y a de ça quelques semaines, il y a eu un message de félicitations, un message d'amitié entre Zemmour et Trump. Marine Le Pen avait été à New York, avait essayé, tenté de voir à l'époque Donald Trump. Donc vous voyez, ils ont quand même des accointances avec les deux, avec Poutine et avec Trump. Et puis, parmi les gens qui aiment aussi bien la Russie, il faut aussi citer Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a parfois des rapports ambigus dans sa présentation de Poutine. Et le point commun qu'il y aurait là avec Le Pen et Zemmour, c'est un peu par rapport à l'OTAN. Pour lui, l'OTAN a trop de poids et ça met les Américains en évidence et en valeur. Et ça leur donne une force que l'Europe n'a pas. Donc pour lui, il faut tout rééquilibrer et il faut mettre sur pied une sorte d'équilibre entre les États-Unis et la Russie de Poutine. Donc Mélenchon est aussi sur la question un peu embêté.
Oui, il n'y a pas très longtemps encore, on était début janvier sur France Inter, il racontait, Jean-Luc Mélenchon, « je ne suis pas d'accord pour qu'on fasse de la Russie un ennemi ». Il le disait très clairement, même s'il a mis un peu d'eau dans son vin depuis quelques semaines.
Il a fait courbe rentrante un peu. Hein.
Exactement, mais c'est aussi, il y a aussi d'autres candidats d'ailleurs, hein, qui sont un peu mystérieux sur cette histoire, le candidat communiste. Il y a toujours cette vieille tradition française de respect vis-à-vis de Moscou qui concerne notamment le candidat du Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste.
On l'entend pas beaucoup là-dessus.
On l'entend pas beaucoup. Et puis Mélenchon, même s'il est trotskiste d'origine, il est héritier de cette vieille tradition communiste française qui regarde toujours Moscou d'un œil un peu différent que les autres partis dits républicains, de la droite républicaine, du PS ou Emmanuel Macron.
Et puis il y en a une, Ariane Marc, qui est un peu mal à l'aise vis-à-vis des anciens cadres du parti, c'est Valérie Pécresse, encore elle, malheureusement pour elle, on a envie de dire, par rapport au lien qu'entretient François Fillon, ancien Premier ministre, désormais proche de la Russie. On écoute Valérie Pécresse, elle était l'invitée de BFM TV et elle évoque François Fillon et ses liens avec la Russie.
François Fillon a quitté la politique et moi je crois qu'à partir du moment où il a quitté la politique, il a le droit de faire sa vie et on doit le laisser tranquille. Voilà.
Mais si la guerre éclate, Madame Pécresse, est-ce que vous allez demander à François Fillon d'arrêter ses activités avec deux sociétés russes contrôlées par des oligarques très proches du président du Kremlin ?
Mais attends, quelle serait ma légitimité pour lui demander cela ?
Parce que c'est la guerre.
Oui, mais il ne fait plus partie de la classe politique. Il ne travaille plus, il n'est pas dans mon parti, il n'est pas dans mon équipe de campagne. Enfin, quelle serait ma légitimité pour lui demander cela ?
Voilà pour Valérie Pécresse. Rien de chemin. On la sent un peu mal à l'aise.
Non, c'est vrai qu'elle accumule les catastrophes dans sa campagne. Elle aurait pu être la personne qui, à droite, qui parlait bien et comme un chef d'État de ce qui était en train de se passer en Ukraine. Notamment parce qu'elle parle le russe. D'ailleurs, elle l'a fait dans une émission de télévision. Elle a appris le russe. Elle a passé des vacances jeune fille en Russie.
Elle a passé deux ans. Hein,
deux
entre
ans.
15 ans et 16 ans en Russie.
En vacances. Bon, donc, elle aurait pu être vraiment celle qui incarnait la responsabilité à droite. Et catastrophe, elle se retrouve avec un ancien l'ancien Premier ministre François Fillon, qui était membre de son parti, les Républicains, qui surtout est resté une figure à droite. Parce que l'électorat orphelin de François Fillon, très important, traditionnel, catholique, il se partage en gros aujourd'hui entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Et c'est la course entre deux pour savoir qui sera au second tour, éventuellement à la place de Marine Le Pen. Donc pour elle, c'est catastrophique, cette image de François Fillon qu'elle n'ose pas complètement condamner, alors qu'elle condamne évidemment les frappes en Ukraine, et ça la met dans une position extrêmement délicate.
Et on rappelle pour ceux qui nous écoutent que François Fillon, l'ancien Premier ministre sous Nicolas Sarkozy, était administrateur depuis quelques mois de deux sociétés pétrolières russes, dont l'une au moins a des liens avérés avec le régime de Vladimir Poutine. La pression était trop forte, François Fillon a donc annoncé sa démission des conseils d'administration de ces deux entreprises russes. On sait que ça embarrassait hein, Valérie Pécresse, la candidate du Parti des Républicains, qui tente tout de même de maintenir sa campagne malgré le contexte international.
Oui, c'est pas un atout positif pour elle dans le contexte du moment. Et comme on vient de l'évoquer, elle est déjà dans une période compliquée. Elle est déjà en train de dévisser dans les sondages, notamment depuis son sous-meeting d'il y a 15 jours. Donc, c'est pas vraiment quelque chose qui peut l'aider. Il faut dire que quand on voit les apports extérieurs qu'on veut lui donner, en disant il te faut des personnalités qui t'aident, c'est soit Fillon, bon, qui a quand même des problèmes avec la justice, qui a eu une condamnation il y a peu à travers un emploi fictif pour sa femme, et puis aussi Nicolas Sarkozy, qui a plein de démêlés aussi avec la justice à travers des affaires.
Pour la première fois depuis sa condamnation à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence, Nicolas Sarkozy, l'ancien président, se défend.
On dit toujours, ah, mais pour gagner, il faut qu'elle ait des poids lourds derrière elle, et les noms qu'on cite, c'est toujours Fillon et Sarkozy, qui ont des gros problème au niveau judiciaire. Donc je ne suis pas sûr que les avoir dans son entourage, ce soit vraiment une chance. Donc elle essaye tant bien que mal de dire je n'ai rien à reprocher à François Fillon, il fait un peu ce qu'il veut, il ne fait plus vraiment partie du parti, il est indépendant. C'est vrai, en tout cas elle compte quand même un peu sur lui. Et rappelez-vous, au meeting de Paris, au Zénith, il était parmi les gens en vidéo qui sont passés pour soutenir Valérie Pécresse.
Image terrible pour elle aujourd'hui quand on la ressuscite. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de chance avec ce supplice chinois que joue avec elle Nicolas Sarkozy, qui ne s'est toujours pas prononcé pour la soutenir. On ne sait pas si ça lui apportera des voix, mais ne pas avoir le soutien de Sarkozy malgré ses démêlés judiciaires, c'est quand même un handicap.
Alors on a parlé de Valérie Pécresse, on a évoqué Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. En fait, il y en a un qui s'en sort bien, c'est le grand gagnant, on a envie de dire, avant les élections, c'est Emmanuel Macron.
Oui, c'est vrai que le climat politique, international, les sondages lui sont favorables. Et donc, on s'était dit en 2017, cet homme qui arrive, qui déboule de rien, qui fait un hold-up sur la sphère politique française, sans parti derrière lui, sans expérience, sans jamais avoir été élu. Tout le monde se disait, un hold-up, ça se pratique une fois, pas deux. Eh bien, il va peut-être et sans doute le pratiquer deux fois.
Marc, vendredi 4 mars, c'est la date limite pour le dépôt des parrainages. On saura qui est candidat.
Oui, tout à fait. Il faut bien dire que depuis 10-15 jours, Ariane a parlé de campagne TFL ou rien ne colle. On a l'impression que depuis 10-15 jours, la seule préoccupation des candidats, c'est d'obtenir des parrainages. Alors, il y a Marine Le Pen qui se victimise un peu en disant, comme le faisait déjà son père et comme elle le fait à chaque élection présidentielle, est-ce que je vais avoir mes 500 signatures? Et puis, elle a même mis sa campagne en arrêt temporairement en disant, comme ça, je pourrais vraiment aller chercher ces signatures pour être parrainé. Éric Zemmour dit la même chose.
Paradoxal.
Et la campagne, on parlait même plus de la Russie, on parlait même plus du pouvoir d'achat, on entendait même plus Zemmour évoquer toujours ses grandes théories. La seule préoccupation, c'était les parrainages. Comme si la campagne était dans une sorte d'entre-deux, il fallait les parrainages et l'arrivée vraiment en campagne officiellement d'Emmanuel Macron.
Allez, il y a une tradition dans ce podcast, c'est le pronostic pour la campagne. Qui sera au second tour de l'élection ? Il va encore se passer beaucoup de choses d'ici le premier tour. Ariane Chemin, votre pronostic à vous ?
Alors, je déteste faire ça, mais je vais le faire pour vous.
C'est gentil.
Il y aura, sauf accident, parce que depuis la campagne de 2017, on sait que tout peut arriver.
Tout est possible.
Sauf accident, il y aura Emmanuel Macron au second tour. Et puis après, c'est très serré, entre trois candidats de droite. Encore que et Jean-Luc Mélenchon est en train d'effectuer une sorte de petite remontada, comme il l'avait fait il y a 5 ans, dans l'ordre des sondages. Mais on a appris à beaucoup s'en méfier. Il y a, dans un mouchoir de poche, deux candidats d'extrême droite et Valérie Pécresse.
Et vous n'êtes pas mouillée, là?
Ben non, je ne me mouille pas plus parce que le journalisme, ça n'est pas du tout la prédiction.
Mais vous avez une petite idée, quand même?
Ce que je vous ai dit, non, je n'ai pas d'idée.
Marc?
Ben, normalement, Emmanuel Macron, ou alors il y a vraiment un gros problème avec les sondages, puisque depuis des mois et des mois et des mois, et il est toujours donné largement vainqueur. Et puis, pour les autres candidats, je vous avoue, de semaine en semaine, ça évolue. Donc, Le Pen résiste toujours bien jusqu'à présent, malgré, c'est ce que j'ai dit notamment aussi la semaine passée, malgré tous les problèmes, les défections, le fait qu'il y ait une campagne qui ne s'emballe pas. Donc, voilà, mais il faudrait peut-être pas mettre Mélenchon trop sur la touche, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu le moindre débat quasiment. Maintenant, ça va commencer. Il va y avoir des débats. Ils vont se retrouver tous ensemble. Ça, c'est un avantage pour Jean-Luc Mélenchon, pas vraiment pour Valérie Pécresse. Et Emmanuel Macron, bon, il va essayer qu'il n'y ait pas d'erreur de sa part, de faute et sans doute de casserole. C'est vrai que si une casserole sortait dans les prochains jours ou semaines, là, il y aurait un gros problème pour Emmanuel Macron. Mais bon, on n'en est pas là du tout. C'est pas du tout fait. Au contraire, celui qui reste le favori, c'est Emmanuel Macron.
Donc en fait, on est d'accord et surtout pour dire que Marine Le Pen fait une campagne silencieuse et solide.
Mais elle joue bien la victime. Elle joue vraiment bien la victime parce que elle apparaît comme quelqu'un qui est délaissé par des proches. Sa nièce d'abord, qui ne la soutient pas. Et puis Nicolas Bay, Stéphane Ravier, tous ces gens qui partent et qui la quittent pour Zemmour. On l'a vu aussi à son meeting, elle est venue un peu comme une victime, en expliquant, vous savez, j'ai une jeunesse difficile, c'est pas facile d'être la fille de Jean-Marie Le Pen. On veut bien la croire, mais enfin bon, bref. Et finalement, on oublie presque qu'elle est d'extrême droite. On a souvent rappelé que son discours sur l'immigration ou sur l'insécurité n'a pas vraiment changé par rapport il y a 5 ans ou 10 ans. Elle le dit de manière plus soft que son père, mais n'a pas changé. Mais c'est vrai que dans sa campagne, on la voit pas souvent, elle fait pas beaucoup de meetings, elle fait pas de grandes vagues, mais elle est toujours quasiment donnée deuxième dans tous les sondages derrière Emmanuel Macron.
Allez, il va encore se passer beaucoup de choses d'ici le premier tour de l'élection présidentielle. On en parlera bien sûr dans votre podcast Voix de France, promis. Merci Ariane Chemin.
Merci.
Merci Marc Sirleroy.
Merci.
Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt.